Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une transformation attendue depuis très longtemps au Maroc. Oui, la réforme de l'hébergement touristique, ça commence enfin à bouger après 10 ans. Pour en discuter, on s'appuie sur un entretien vraiment intéressant paru dans EcoBusiness. Il s'agit d'une interview de Jalil Benabestarvi, qui est une voix assez respectée du secteur, ancien président de la FNT. L'idée, c'est de voir ensemble ce qui change concrètement pour les hôtels, les riades et puis pour nous, les voyageurs. Est-ce que c'est juste un dépoussiérage ou quelque chose de plus profond? On va regarder ça de plus près. Il faut dire que le secteur, il n'en pouvait plus d'attendre, non? 10 ans depuis la loi cadre 94.
Ah oui, 10 ans, c'est long. Donc les premiers arrêtés d'application qui sortent maintenant, c'est un soulagement.
Surtout avec le contexte actuel.
Exactement. Pleine reprise post-Covid, des ambitions très fortes, on parle de 26 millions de touristes d'ici 2030. Donc oui, M. Benabestarvi parle de soulagement, mais aussi d'une certaine prudence. Et il a raison.
Et le premier gros changement, c'est quoi alors?
Le changement le plus visible tout de suite, c'est la classification. On passe à un système unique par étoile. Fini les catégories un peu, parfois spécifiques pour les riades, les maisons d'hôtes, etc.
Ah, d'accord.
L'objectif, c'est clair. Plus de lisibilité, surtout à l'international.
Une classification unique, oui, ça paraît plus simple comme ça, mais est-ce qu'on risque pas de perdre un peu ce qui fait le charme, je sais pas, d'un petit riad face à un grand hôtel standardisé?
C'est exactement ça le défi. C'est tout le défi. Parce que derrière cette simplification apparente, il y a une montée en gamme, mais alors drastique, des exigences.
C'est-à-dire?
On parle de grilles avec, tenez-vous bien, jusqu'à 800 critères parfois. Et des évaluations par visite mystère.
Ah oui, quand même.
Oui, c'est un vrai changement de philosophie. On passe d'une logique où on regardait surtout les murs, les équipements, l'infrastructure, quoi, à une logique basée sur le service, l'expérience client. C'est ça le cœur du réacteur maintenant.
D'accord.
Et le pari, c'est d'arriver à évaluer la qualité de façon juste, que ce soit un palace ou une petite maison d'hôte pleine de charme. Le risque, vous l'avez dit, c'est de tomber dans une standardisation un peu excessive. De gommer l'authenticité. C'est comme vouloir noter un restaurant 3 étoiles et un super petit boui-boui de quartier avec la même grille exacte, quoi. Pas simple.
Et il n'y a pas que la classification initiale qui change, si j'ai bien compris. La durée de validité aussi?
Exactement. Et ça, c'est peut-être encore plus important sur le long terme. Fini le classement obtenu à vie.
Ah.
Ce qui pouvait, on va dire, inciter un certain immobilisme pour certains. Là, non. Réévaluation obligatoire tous les 5 à 7 ans.
Donc il faut maintenir le niveau.
Voilà. C'est une incitation forte à s'améliorer tout le temps, à maintenir les standards. L'étoile, elle se mérite en continu.
L'autre grand sujet qui est sur la table, même si apparemment tout n'est pas encore ficelé, c'est d'intégrer ce qu'on appelle le hors-cadre. Tout ce qui est Airbnb, hébergement chez l'habitant, les bivouacs. C'est énorme ça, non?
C'est crucial. Essentiel même. Mais très complexe, parce qu'il faut trouver le juste milieu. D'un côté, imposer des règles équitables pour tout le monde. Fiscalité, sécurité, hygiène, c'est normal. Mais de l'autre, il ne faut pas non plus tuer l'initiative ou l'authenticité que les gens recherchent justement dans ce type d'hébergement alternatif.
Oui, c'est un équilibre difficile.
Un vrai exercice d'équilibrisme réglementaire. Surtout que, comme vous l'avez dit, les décrets spécifiques pour l'habitat, les bivouacs, tout ça, on les attend encore.
Et pour la mise en œuvre de tout ça, concrètement, les hôtels, les riades, ils ont combien de temps?
Ils ont 24 mois pour se mettre en conformité.
2 ans. C'est jouable?
Globalement, ça semble raisonnable. Mais pour les petites structures, les indépendants, ceux qui ont déjà souffert avec le Covid, ça va être un vrai défi.
T'imagines? Les coûts, peut-être?
Oui, les obstacles sont multiples. Financiers, bien sûr, pour les travaux de mise aux normes. Humains aussi, on manque de personnel qualifié. Et puis, il y a un besoin énorme d'informations, d'accompagnement technique. Le soutien public pour ces acteurs plus fragiles, ça va être clé pour que ça marche. Et il y a aussi ce nouveau concept pour le luxe, les RIA, les résidences immobilières adossées.
Oui, c'est quoi exactement?
En gros, ça permet de financer un projet hôtelier de luxe en vendant une partie en appartement ou villa privée. C'est un levier d'investissement, c'est sûr. Mais attention, gros risque de spéculation foncière. Faut un encadrement très strict pour que ça reste bien un projet touristique avant tout.
Bon, alors, avec tout ça sur la table, cette réforme, est-ce que c'est vraiment l'outil qui va permettre au Maroc de devenir cette destination de référence mondiale qu'il ambitionne d'être?
Écoutez, le potentiel, il est là, indéniablement. La diversité de l'offre au Maroc est incroyable. L'hospitalité légendaire, les infrastructures qui s'améliorent. Mais la réforme, aussi nécessaire soit-elle, ça reste un outil. C'est pas une baguette magique.
Qu'est-ce qu'il faut d'autre alors?
Le succès, il va dépendre de plein de choses. D'abord, un investissement massif dans la formation. Le service, c'est ça qui fera la différence. Ensuite, l'ancrage territorial. Il faut que le tourisme profite vraiment aux populations locales, que ce soit durable. La digitalisation, bien sûr, faut accélérer. Une stratégie d'image forte, cohérente. Et puis, il faut absolument que les textes qui manquent encore sortent rapidement pour avoir le cadre complet.
Et la coopération publique-privée ?
Elle semble s'améliorer, c'est ce que dit M. Benabestargi. Mais il faut que ça dure, que ce soit pérenne.
Donc, pour résumer, on a une réforme qui modernise, qui vise plus haut niveau qualité, plus de transparence. C'est une avancée importante, sur le papier en tout cas. Mais le gros du travail commence maintenant, c'est ça ?
L'exécution. Exactement. Accompagner les acteurs, surtout les plus petits. Intégrer l'informel intelligemment. Et surtout, tenir le cap sur la durée. Et ça nous laisse avec une question de fond, pour l'avenir, je trouve.
Laquelle ?
Comment le Maroc va réussir ce grand écart ? D'un côté, cette montée en gamme, cette standardisation nécessaire pour le marché international, et de l'autre, préserver ce qui fait son âme, son charme unique. L'authenticité, la diversité, cette chaleur humaine qu'on trouve partout, mais qui est parfois difficile à faire rentrer dans une grille de 800 critères, quoi.